Alors, chers auditeurs de Radio Libre, bonsoir, François à l'antenne, et ce soir, j'ai l'immense privilège, l'honneur, le plaisir d'interviewer Charlie, notre Charlie à nous, ça y est, je l'ai retrouvé dans les livres, hein, avec son bonnet et son pull rayé, il est là, et c'est lui qui va répondre à mes questions ce soir. Charlie, bonsoir.
Et bonsoir François, et merci de m'accueillir, et surtout de m'avoir retrouvé, parce que j'étais moi-même perdu dans ce monde complètement fou. Alors, quelle est ta question ce soir ?
Alors, le monde est complètement fou. Selon toi, Trump réélu ?
Alors, selon toute vraisemblance, je dirais que oui. Je ne vois pas comment Biden pourrait, à moins de tricher sur les systèmes de votation électronique.
C'est impossible.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé en Suisse sur les systèmes de votation électronique. Et que j'ai vu quand même qu'aux États-Unis, ils ont des systèmes qui sont remplis de failles et qui font rien pour régler le problème. Et puis, je peux dire aussi d'expérience qu'en Suisse, on est bien mieux lotis que les Américains pour avoir un peu de sécurité dans les votations électroniques. Et c'est souvent plutôt les erreurs humaines ou les manipulations humaines qui font la différence. D'ailleurs, malgré ce qu'on a pu dire sur le fait que les élections aux États-Unis n'avaient pas été truquées, il y avait quand même eu des fraudes, des gens qui avaient passé plusieurs fois les mêmes bulletins dans les machines à compter. Ça, il y avait des caméras de surveillance qui avaient montré ça. Ils avaient essayé de cacher un peu les vitres, parfois dans certains locaux qui étaient tenus plutôt par les démocrates, ils se sont mis un peu ensemble pour faire pencher la balance en faveur de leur candidat. Voilà, cette bonne guerre, ma foi, ils se sont fait attraper, ils recommenceront peut-être la prochaine fois, ils ne seront pas attrapés. Donc voilà, donc sauf surprise, parce qu'on est vraiment dans une situation internationale très tendue. J'écoute un interview d'Ariane Bilrand sur Tocsin Média, cette radio là en ligne, avec Maître Dea Rojo Rekia, qui disent que l'élite est en train de nous pousser vers un totalitarisme permanent, une guerre permanente, un sentiment de peur permanent. Donc Trump, dans tout ça, s'il est réélu, et moi je pense qu'il va l'être, s'il arrive aux élections, eh bien on aura certainement un Trump, comme il l'a promis, qui va vouloir régler ce conflit au plus vite, parce qu'il se rend bien compte qu'à part mettre de l'argent dans les poches de certains Américains, mais qui ne sont pas tous les Américains, ça empêche les États-Unis de régler leurs propres problèmes internes qui sont actuellement très nombreux. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Ouais, tu es un abominable complotiste, tu me donnes envie de vomir, c'est atroce. Mais non, je veux dire, moi j'ai toujours considéré que les présidents américains avaient, mon Dieu, pas tant de pouvoir que ça, mis à part un droit de grâce 2 heures avant de s'envoler et de quitter le bureau ovale. Maintenant, la question, c'est est-ce que le système qui se nourrit de cette guerre, qui est en train de recréer l'opposition Est-Ouest, va le laisser, si tant est qu'il ait vraiment l'envie de se débarrasser de la guerre, est-ce que le système va le laisser en finir ?
Alors, ce qui est étonnant avec Trump, c'est qu'il est beaucoup plus, il est beaucoup plus soutenu, certainement dans les coulisses, que ce que ses apparences ne laissent penser. Parce que de l'extérieur, on le dépeint comme un outsider qui est un peu un trublion de la politique, qui n'en fait qu'à sa tête. Mais à la base, c'est quand même un homme d'affaires qui a énormément de relations, notamment dans le monde politique, économique, et qui sait jouer ses cartes au moment venu. D'ailleurs, quand je vois Trump, c'est toujours avec cette sorte de petit sourire et ses yeux qui regardent. Je pense que c'est un personnage beaucoup plus intelligent que ce qu'on pense, c'est pas un Boris Johnson, malgré la similitude de la coupe de cheveux. Donc je pense que s'il veut arrêter ça, il a dit qu'il allait le faire, il va s'assurer que derrière les gens qui vont peut-être perdre de l'argent dans l'armement américains, ils vont s'y retrouver peut-être avec des nouvelles commandes pour recréer les arsenaux américains qui sont complètement tombés en désuétude. Surtout, on l'a vu en Ukraine avec des matériels qui n'étaient pas du tout adaptés à une guerre de grande intensité.
Mais c'est ce que fait l'Amérique depuis la nuit des temps, c'est envoyer les autres à la guerre, se planquer derrière son océan, et puis vendre la protection, enfin comme un vieux chef mafieux, si vous n'êtes pas avec nous, vous serez contre nous, et le grand méchant soviétique va vous dévorer. Donc ils sont en train de faire renaître ce qui a fait leur richesse, à savoir la guerre froide de l'après-guerre. Terminer la guerre, même une guerre à combustion lente, c'est libérer l'Europe. C'est pas du tout bon pour les États-Unis. C'est un homme d'affaires, c'est un Américain, c'est le président des États-Unis. Il n'a strictement aucun intérêt à libérer, si tu veux, ces colonies occidentales en dégageant, qui plus est, un des adversaires de son pays que sont les Russes. Ce serait un double échec.
Bon, pour revenir en arrière par rapport aux dégâts qui ont été créés par ce conflit, donc pour retrouver des relations normales entre l'Europe occidentale et la Russie, ça va prendre des décennies. Faut pas se leurrer. Donc les dégâts sont faits et maintenant les Américains, ils ont plus qu'à peut-être avec Trump, grâce à Trump, jouer les pacificateurs à nouveau et jouer la carte de la paix et puis quand même s'y retrouver en fin de compte. Ce qui va être fortement décisif, c'est la manière de négocier. Qu'est-ce qui va être négocié avec les Russes, avec Poutine, sur ce traité de paix, hein. Ça, c'est vraiment un peu la question. Le conflit est encore ouvert, hein. On a vu qu'il y a une grande forteresse qui est tombée près de Donetsk, qui était la plus grande forteresse, zone fortifiée. Il fortifiait ça, je crois, depuis 15 ans, à Avdiivka. Qui est tombé, et maintenant ça ouvre aussi d'autres perspectives pour avancer par les troupes russes, mais on ne sait pas jusqu'où elles iront, on ne sait pas ce qui a été décidé, donc là tout est encore ouvert, hein, par rapport à cette décision. Ça peut se passer aussi très vite, hein. Là on a eu un sursaut de l'Europe qui a organisé cette rencontre urgente, et puis on a vu Emmanuel Macron qui a signé un accord de sécurité avec l'Ukraine, et là c'est intéressant parce qu'il y a deux députés sur les 900 et quelques en France, je ne sais pas combien ils sont, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui ont réagi en fait que Emmanuel Macron a signé quelque chose qui devrait être en fait validé par les députés, par les élus français. Et il n'a pas du tout respecté ça. Donc c'est un accord qui engage la France, financièrement dans ce cas-là, et aussi un peu militairement, dans un accord international. Et étrangement, Emmanuel Macron a signé pour 3 milliards d'aides supplémentaires par rapport aux 10 milliards qu'ils ont déjà promis comme contribution dans le cadre de la contribution européenne. Et là, c'était Dupont-Aignan. Et si je me trompe pas, le député sénateur Alain Houpert.
On voit que Macron a la confiance et il se voit en président des États-Unis d'Europe. Pas dit que les Américains laissent faire. Dernière question, et la Suisse dans tout ça, est-ce que la Suisse a un avantage à avoir une Amérique un peu cow-boy, costaud, comme ça, une Amérique à la Trump, une Amérique forte, qui sait froncer les sourcils sur les questions bancaires? Est-ce que la Suisse ne serait pas finalement plus à l'abri, plus au chaud avec une personnalité comme Biden, ou disons quelque chose d'approchant?
Je crois que par la force des choses, par la philosophie politique par rapport à aux relations des États-Unis avec le monde extérieur, c'est plutôt les démocrates, hein, qui ont mis pied en Europe et puis qui ont créé des liens en Europe. Donc je pense que l'Europe est plutôt démocratophile, sans mauvais jeu de mots, hein, que républicaine, hein. Donc la Suisse, d'ailleurs ça se voit dans les médias, soutient beaucoup plus souvent les démocrates malgré toutes leurs dérives, hein. On rappelle qu'Obama, c'est celui qui avait le plus de conflits ouverts en tant que président américain dans le monde de l'histoire des États-Unis, et c'est lui qui a reçu le prix Nobel de la paix, hein, avant de commencer son mandat. Ça, c'était quand même assez extraordinaire, hein. Donc, puis le prix Nobel, ça se passe en Europe, hein. Donc, l'élite européenne est plutôt pro-démocrate. Et comme le disait un ami, je crois François d'ailleurs, on est vraiment dans une politique qui est vraiment, c'est le yin-yang en fait. Mais c'est pas le yin-yang, mais si quand même un peu. C'est que c'est vraiment pile ou face, quoi. Et puis j'avais été à Bâle à une rencontre des démocrates, donc américains en Suisse. qui avait une réunion comme ça. C'est une amie qui m'avait entraîné là-bas. Et puis, j'étais très surpris d'une chose, c'est que en Suisse, quand on a des rencontres politiques, on parle des thèmes politiques. On dit, voilà, pour la prochaine campagne, on va parler de ça, de ça, de ça. Ça va être notre prise de position. Enfin, tu sais que j'avais été un peu dans le parti pirate. J'étais passé chez les Verts libres aussi. Je suis passé chez les Verts aussi. Donc, j'ai un peu goûté, quoi. Ouais, il faut varier les expériences. Et puis, on sait de quoi on parle. Et voilà. Ce qui m'a vraiment presque choqué, c'est que on a passé cet après-midi avec ces démocrates américains en Suisse à parler du fait qu'on doit écraser les autres, on doit écraser les républicains, on doit gagner, on doit avoir faire plus de voix, et comment on va faire plus de voix, comment est-ce qu'on doit être plus présent sur les réseaux sociaux, comment on doit faire ci, ça, ça. Et ça ressemblait plutôt à une guerre, à un combat contre l'autre, plutôt qu'à développer des idées par soi-même pour être peut-être plus attractif pour l'électorat. Et je trouve que c'était d'une tristesse infinie, parce que ça nous ramène à une démocratie qui n'est pas du tout la conception de la démocratie que je me fais, en fait. Voilà, c'était pour cette expérience.
La politique, bien sûr, c'est la guerre par d'autres moyens. En tout cas, le grand avantage de l'élection de Trump, c'est que ça fera gueuler la gauche, et c'est toujours une musique très agréable à mes oreilles. Charlie, je te remercie. À la prochaine.
Merci, François. À bientôt.
Vous écoutez Radio Libre.
Mais c'est super.